With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Level when you talk dirty.
Hold. Moi, je suis assez content, en fait. Je suis assez content. Il y a des choses qui m'énervent considérablement dans le film. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc comme ça. Donc, je choisis Hold parce que j'ai vu le film et que je le trouve super intéressant et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé. Voilà, clairement.
Bring it on.
Don't fuck with me.
Je vais y aller, là, quoi. Bonjour, c'est Yannick Dahan et aujourd'hui, on va parler du dernier film de M. Night Shyamalan.
Tu dis Shyamalan ?
Oh, moi, je sais pas, merde. Moi, je me plante sur les noms. Alors, des fois, moi, je dis Shyamalan, ouais, parce que je sais pas s'il faut dire Shyamalan. Oui, bon, mais Shyamalan, voilà. Il s'appelle Hold et qui sort en Blu-ray, je crois, autour du 24 novembre.
Are we there yet?
This beach, it's beautiful.
My swimsuit is hurting.
They do look small.
Come on, let's play hide and seek.
Have you seen my children?
Mom, I'm right here.
He was 6 years old this morning.
Oh no.
Mom, I'm scared. There's something wrong with this beach.
We were chosen for a reason.
What's happening?
I don't know.
I can't think.
Hold, c'est tiré d'un roman graphique français qui s'appelait Le Château de Sable, si je ne m'abuse. Une histoire toute simple, là, c'est plusieurs personnes qui se retrouvent dans un hôtel de vacances et à qui on va suggérer d'aller passer un après-midi sur une plage un peu reculée que peu de gens connaissent et qui est magnifique. Donc ils vont aller sur cette plage et puis on va très vite se rendre compte qu'ils ne peuvent pas en sortir. Une fois qu'ils sont sur cette plage, ils vieillissent à la vitesse de l'éclair. Bah, forcément, on va spoiler sur le film. Moi, je pars du principe que les gens l'ont vu. Sinon, tu peux rien dire dessus. Un film fondamentalement sur le temps qui passe de manière accélérée avec tous les questionnements que ça peut poser sur la condition humaine, mais traité façon thriller, survival, entre guillemets, toute la dimension un peu intrigue de genre, toutes les séquences un peu choc, moi je les trouve ratées. Je trouve qu'elles sont pas dignes de Shyamalan et de sa mise en scène, quand les mecs tombent dans les pommes quand ils rentrent dans la caverne, quand le médecin se met à tuer les gens avec des espèces d'effets de flou un peu bizarres, avec un final twist où donc on apprend que ces gens-là sont en fait les victimes d'une expérimentation de Big Pharma. Mais c'est pas le plus intéressant. En réalité, tu as la dimension philosophique qui est extraite du roman graphique et qui a un potentiel assez énorme. Tu as cette intrigue-là, mais qui en fait est clairement une charge anti-Big Pharma et pas simplement par son twist final. Et puis tu as la mise en scène qui te dit énormément de choses. Donc après, c'est par quel bout on l'aborde. J'ai envie de te dire, le film est presque même plus intéressant dans ce que sa mise en scène dit que ce que ces deux scénario plaqué l'un sur l'autre, c'est-à-dire le scénar philosophique sur la temporalité, sur le vieillissement des personnages, sur donc toutes ces situations qu'on imagine et qui créent des moments aussi malaisants dans le film, hein, où c'est pas agréable, la gamine qui est enceinte à vitesse grand V, l'autre bimbo qui se démantibule. Bon, t'as toute cette notion sur le temps qui passe que beaucoup de gens ont traduit en disant qu'elle était un petit peu caricaturale parce qu'on avait un petit peu des personnages fonctions, tu vois, la bimbo qui supporte pas de vieillir, des choses comme ça, la psychologue qui est tout en mode « il faut qu'on parle, une solution à tout » et qui vont, ben voilà. Donc, effectivement, c'est des personnages fonctions. Il y a d'ailleurs un truc qui est étonnant dans le jeu des acteurs. Je sais pas si tu te rappelles le film, mais ils ont l'air complètement en décalage des fois. Il y a une espèce de côté lunaire de temps en temps dans les réactions, alors que ce soit par rapport à la mort, à la violence, ou voire même dans les dialogues. Et c'est pour ça que je dis que c'est un film qu'il faut revoir. Parce que moi, la première fois que je l'ai vu, j'étais très perturbé par ça. J'étais très perturbé par le jeu des acteurs que je trouvais pas juste, une mauvaise gestion, si tu veux, du rendu émotionnel. Mais en même temps, J'ai été bluffé par la virtuosité du reste de la mise en scène, avec certains petits plans séquences qui sont incroyables, et puis des choses que je ne comprenais pas, mais dont je voyais la particularité. Évidemment, petit à petit, tu vois bien que beaucoup d'événements se passent en hors-champ, que ce qui compte finalement, c'est la perception qu'ont les personnages sur le réel qui est en train de l'arriver, que le réel lui-même. On ne te montre pas quasiment les morts, ou quand quelqu'un, il se passe quelque chose dans n'importe quel film, ce serait le focus de la scène. Là, c'est pas ça, on est sur la réaction des personnages. Donc, tout ça, plus tous les éléments d'intrigue, fait que je pense qu'il chamboule pas mal le film. D'un côté, c'est assez jouissif, parce que tu te dis, j'ai jamais vu ça. Enfin, faut être quand même un putain de grand metteur en scène pour sur une plage. Je veux dire, il n'y a rien, t'es dans une unité de lieu, unité de lieu, en tout cas, avec rien. T'as le ciel, la roche, le sable, et le mec, il arrive à réinventer systématiquement une scénographie d'une séquence à une autre, avec des cadres que moi je vois plus au cinéma, avec des audaces dans les mouvements de caméra que je ne vois pas, qui pourraient être de la virtuosité gratuite, mais qu'une seconde vision du film te confirme comme étant quelque chose d'extrêmement bien pensé. Il y a cette espèce de travelling génial, là, à un moment donné, le père et la mère parlent, et en fait, ils tournent autour, et toute la scène est centrée par un parasol, tu vois. Enfin, il y a des idées incroyables. Donc en fait, si tu veux, même littéralement, le scénario thématique sur le temps qui passe en accéléré, la vieillesse, c'est intéressant, il y a des choses intéressantes, mais c'est même un peu grossier, c'est même un peu appuyé par les dialogues, tu vois, la mère qui s'engueule avec la fille, la fille qui dit « laisse-moi du temps pour accepter que t'as trompé mon père », et que l'autre il dit « mais on n'a pas le temps ». T'es pas obligé de dire « on n'a pas le temps », tu vois, je veux dire, il y a des choses qui sont un petit peu appuyées comme ça, et t'as toute cette démarche de progressive du film qui va revenir vers le cœur nucléaire de ce qu'est l'humanité, de cette famille, de son acceptation de la mort, de profiter de l'instant présent, tout y passe. En fait, le contrepoint philosophique, il est dit dès le départ. Il y a une scène au tout début du film où la femme, tu sais, il y a un couple avec deux enfants, hein, c'est les personnages principaux, entre guillemets, ceux qui survivent jusqu'à la fin, et où elle est en train de lire un livre, et elle dit à son mari, tu sais le livre que je suis en train de lire? Et lui répond, non, je ne sais pas pourquoi, elle fait, non, c'est pas grave. En fait, ça passe tellement vite que personne ne peut voir à vitesse réelle le film. Moi, j'ai dû mettre en pause pour voir c'était quoi le livre. Et ça m'a fait marrer, parce que le livre, c'est Une liaison dangereuse, qui est un livre qui raconte l'histoire assez incroyable de Jean-Paul Sartre et de Simone de Beauvoir. Jean-Paul Sartre, c'est quand même le champion, le mec qui a fait venir en France la phénoménologie, puis qui a développé l'existentialisme athée. Alors, je ne vais pas dire que le film ne réfléchit que par rapport à ces notions philosophiques-là, parce qu'il y a différentes interprétations de l'existentialisme, il y a différentes interprétations de la phénoménologie, mais c'est quand même cette idée d'un être humain, maître de ses actions, en tout cas, être humain qui arrive sur Terre, qui est vide, entre guillemets, que son vécu, son expérience va progressivement le définir, et définir son essence, si je ne m'abuse. Je ne suis pas sûr, mais c'est ça. Tout est appuyé à cette tonne, en fait, dans le film. Et que quelque part, j'ai senti un truc assez marrant, hein. Tout dépend encore une fois de sa perception de l'existentialisme, mais j'ai envie de te dire, c'est un film anti-existentialiste. C'est-à-dire que, quand tu regardes bien ce film-là, on est sur des individus produits du monde d'aujourd'hui, donc des individus littéralement malades, des individus en conflit, des individus qui pensent essentiellement à leur gueule, tous les uns et les autres, hein, le médecin qui pense à lui, la blonde qui pense à elle, qui ignore ses gamins, les autres qui sont dans leur conflit, et finalement il n'y a que cette famille un petit peu où ils font attention par rapport à leurs gamins, mais il y a toute une... En fait, tout le film est une énorme critique de, pas simplement du monde dans lequel on est, mais de où est arrivée la société, de l'idéologie qui en découle. T'as tout cet univers-là qu'il va tuer les uns à la suite des autres, en fait, fondamentalement. Des gens qui ont sacralisé la notion d'individu, qui pensent maîtriser leur destin. C'est ça l'existentialisme. Et en fait, ils ne maîtrisent rien. Et petit à petit, plus rien d'existentialiste dans le sens philosophique du terme n'apparaît dans le film. Je me perds un peu dans mes propres réflexions, mais un peu ça. Qu'est-ce qu'il est en train de te faire dans ce film-là? Il te fait une charge, entre guillemets, contre Big Pharma, avec des personnages complètement individualistes qui cherchent rationnellement un moyen de sortir quelque chose. Donc on est dans la raison, on est dans la science. Et la bascule, elle se fait, et c'est intéressant d'ailleurs, elle se fait à partir du moment où la gamine, qui a théoriquement 7 ans dans le film, tout d'un coup se retrouve avec un corps d'adulte et qui se confronte avec sa mère et tout ça, et qui se met à dire « t'es adulte maintenant, il faut que tu sois plus forte », et elle fait ça en se dirigeant vers la mère et en disant Il faut que tu te connectes à quelque chose de plus grand. Et ça commence comme ça. Et en fait, ce n'est jamais dit après, ensuite, dans le scénario. Et on arrive à ce fameux final. Alors, ce fameux final qui est un faux twist, hein, puisque pour moi, c'est quand même préparé depuis le début. Puis Shyamalan qui fait lui-même, si tu veux, l'instrument de cette science un peu folle, l'appuie encore plus. Ça se traduit à la fin quand on découvre donc que tous ces gens sur cette page sont en fait les cobayes d'une expérience scientifique et d'une grosse société qui analyse leur maladie et qui utilise la temporalité de la plage pour trouver des médicaments. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'une fois qu'on a quitté les deux derniers personnages, donc la fille et le garçon qui ont vieilli, en fait, qui comprennent qu'ils ont peut-être une possibilité de s'en sortir, on les voit essayer de s'en sortir, on les quitte, on les voit débarquer à la fin dans le labo, prévenir tout le monde, aller chercher le flic et lui dire « Regardez, en fait, ils font des expérimentations sur nous, plein de gens ont disparu, tout ce que tu fais. » Et là, il y a un plan, moi, qui m'a complètement frappé, puis en plus, il décline par derrière, c'est que tout d'un coup, tu vois un ralenti avec le flic qui est en train d'avancer au milieu de l'hôtel, où on voit tous les gens qui sont en train de prendre conscience de la manipulation qu'il y a eu. Alors la caméra, elle se décadre et elle va filmer le ciel. Moi, j'étais là, mais pourquoi il va me choper le ciel? Et deux secondes après, je suis encore plus surpris, c'est que tout d'un coup, on fait un flashback. Pas de flashback dans le film. Et là, tout d'un coup, on se retrouve avec cette espèce de flashback où on retrouve les deux jeunes vieux, entre guillemets, qui ont essayé d'atteindre la barrière de corail en pensant que ça allait leur permettre d'échapper à la plage. Et on revient au moment où on s'était arrêté avant, et que la fille, elle, est coincée. Et tu sens qu'elle peut crever et que le mec vient pour l'aider. Sauf que quand on les voit revenir, c'est pas lui qui l'aide à la quitter, c'est que tout d'un coup, il y a une fissure surnaturelle, une intervention divine, littéralement. Le plan d'avant, c'est le ciel. Il t'a dit « je quitte ça pour vous montrer qu'en fait, il y a ça ». Et c'est là où ça m'a fait marrer, c'est que quand j'ai regardé un petit peu ce que les gens pensaient du film, et jamais personne ne parlait de cette notion de spiritualité, qui est quand même propre à Shyamalan depuis ses débuts, et qu'on retrouve dans tous ses films, et pas simplement dans Signe. Mais c'est quand même un mec qui s'est toujours questionné sur sa foi, qui questionne toujours le réel et le spirituel. Ah bah c'est complètement flagrant là-dessus. C'est-à-dire que l'existentialisme athée de Jean-Paul Sartre, bon bah, ça veut dire ce que ça veut dire. Et dans une société qui aujourd'hui a complètement sacralisé l'individu, il en est quand même à revenir à cette notion de spiritualité. Mais il ne le revient pas, il ne revient jamais en l'édictant de manière évidente par les dialogues ou par des situations, ça ne passe que par la mise en scène. Il y a une vraie exigence de spiritualité dans un monde qui l'interdit, en réalité. Tout va dans ce sens-là derrière, de cette quête de spiritualité. Et ça passe que par la mise en scène. Moi, c'est ça. Et puis quelques dialogues au final. Quand il en revient à te dire que finalement, la seule chose de l'humanité, c'est ce cœur nucléaire à la fin de la famille et de l'instant présent. Et de ces gens-là, bah, moi, qui finalement acceptent d'être sur cette plage-là. J'aime beaucoup, moi, ce passage que je trouve vraiment très, très beau et puis très intelligent, cette façon de le mari de dire « on était en lutte contre quelque chose ». Elle fait « oui, mais je n'ai plus de colère maintenant ». C'est-à-dire que j'ai accepté ce que je suis. Aucun autre des personnages qui sont les produits du monde dans lequel on est, d'une science dominatrice, de leur raison vendue en étendard ou de leur narcissisme, en fait, sont tous passés à l'as. Il est en train de dire « je n'ai plus de colère ». Puis juste après, il lui fait « j'ai oublié, c'est marrant ». Le mot qui veut dire les sentiments que j'éprouve pour toi. Et en fait, il veut lui dire je t'aime et il ne sait plus comment le dire. Si ça, c'est pas. Tu vois, si c'est pas quelque part complètement évident, et il va plus loin encore que ça, c'est que dans cette scène-là, on est sur un plan large comme ça, le père meurt. Ah, moi, j'ai trouvé ça hallucinant. La première fois, tu comprends pas forcément, tu vois, tu te poses pas la question. Puis il décadre, il met sur le côté. Et là, tout d'un coup, sur le côté, on voit la mère triste se lever, se diriger vers l'eau. Mais la caméra la quitte, elle filme l'eau, elle revient sur la plage, la mère est morte, elle sort des deux enfants qui regardent leur mère pour aller vers la roche, filme la roche, et quand elle revient, elle se place derrière le feu de bois qui illumine la scène. Et littéralement, l'eau, l'air, la terre, le feu. Donc l'essentiel, tu vois, c'est les éléments comme étant la condition de notre existence. Tu as quand même cette notion de questionner l'existentialisme, l'idée même de l'existentialisme, alors que tout est une prison. Prison du temps, prison de la plage, prison d'un système qui nous observe, qui nous contrôle, tu vois, et dont la seule issue est pour lui un appel à quelque chose qui est plus grand que nous. Et ce quelque chose qui est plus grand que nous, pour lui, dans son film, nous sauve. Littéralement. Et c'est pour ça que je trouve que non seulement il est extrêmement cohérent, finalement, par rapport à toute l'œuvre de Shyamalan, et à ses questionnements qui continuent, qui se perpétuent, tu vois, le réel, l'illusion, la foi, le contraire de la foi. Enfin, j'ai trouvé ça à la seconde vision encore plus brillant, et je trouve qu'en fait, si tu veux, tout ce qu'il y a de plus riche est extrêmement subtil, tout ce qu'il y a de plus grossier est évidemment, tu vois, projeté en avant comme un élément de genre, et qui te parasite. Moi, j'adore ce passage. Qu'on n'attend pas, mais je veux dire, la reconnexion entre le mari et la femme, qui au début du film avait l'intention de se séparer, très clairement, se passe au moment où, en vieillissant, le mari ne voit plus. Donc, il voit sa femme floue arriver. Ce que tu vois, le réel qui s'impose à toi, phénoménologiquement parlant, tu le prends pour ce qu'il est, et il va te définir par la suite. Et là-dedans, il te dit non, il y a autre chose que ce que tu vois. Tu vois, et c'est ça qui est beau et intéressant dans le film. Et puis c'est un cinéaste que je trouve absolument fascinant pour ça, parce que on l'a souvent dit que c'était un type qui te mettait du fantastique dans le quotidien. Moi, c'est quelqu'un qui me fait comprendre la philosophie du réel. En fait, la dimension philosophique qu'il y a dans le réel, et en filmant le réel le plus simple très souvent. Et il en sort une dimension qu'on peut qualifier de mythologique, mais la mythologie est de toute façon une forme de la pensée philosophique. Donc, quoi qu'il advienne, il y a toujours ça. Et je boucle, je pars en sucette, moi je pars en tous les sens. Mais tu me mets 20 centimes, je peux faire 2h30. Donc voilà, moi, pour tout ça, je suis peut-être un peu chaotique dans tout ce que je dis, mais parce que c'est un film schizophrène. Et donc, si vous l'avez vu, que vous avez été un peu déçu, ou alors vous dites « Ah, c'est très beau, mais c'est complètement con », il mérite d'être revu une deuxième fois, vraiment. Donc j'intime à tout le monde, regardez-le une deuxième fois, et regardez les images, regardez les plans, et dites-vous simplement, littéralement, qu'est-ce qu'il filme. Et pourquoi il le filme. Bon, la minute de Yannick Danse, c'est terminé. J'allais partir sur les descriptions. Voilà, cette courte émission est terminée. On se retrouve dans une semaine et je ne sais pas de quoi on va parler. Vous pouvez nous retrouver donc apparemment tous les lundis sur la chaîne Capture Mag sur YouTube et sur plein de plateformes podcast. Et si vous voulez savoir tous les détails, apparemment, il faut lire la description qui est en dessous de la vidéo. Voilà, bravo, merci. Allez, à la prochaine fois.